Première, podcast. Un jour dans l'histoire. Laurent Dehausset.
Retour aux années 60 et 70 du siècle dernier, direction la France et les États-Unis. Un pont a été jeté entre les deux nations, un pont de poudre blanche. En une décennie, ce sont des centaines de milliers de jeunes Américains qui vont tomber dans l'enfer de la drogue, se rendre accro à l'héroïne. Elle arrive sur le continent américain de toutes les manières, cachée dans des voitures ou dans des conserves de paella. Qui fournit la drogue? Ce sont les Français. Depuis Marseille, ils fabriquent 80% de la consommation de l'oncle Sam. C'est la fameuse French Connection.
Every day I had taken heroin.
For a year and a half?
Yes.
How much was it costing you?
Well, I really couldn't say, but it cost enough to kill myself.
Pensons pas aux gens qui meurent, pensons aux sous que ça rapporte. Voilà, vous avez tout à la philosophie du milieu.
Un jour dans l'histoire.
Et voilà, on vient d'entendre là un jeune gamin qui se shoote déjà, il a une douzaine d'années. Et puis le témoignage d'un trafiquant avec nous pour parler de cette French Connection, David Cornbrosa. Bonjour David Cornbrosa.
Oui, bonjour. Non, moi je ne suis pas trafiquant, hein. Je suis réalisateur, mais je ne suis pas le trafiquant dont vous parlez.
Voilà, vous êtes le réalisateur de French Connection. Alors au tout début des années 50 et 60, donc aux États-Unis, c'est le fléau de la drogue, de l'héroïne. Ça ne touche pas toutes les catégories sociales, hein. Au tout début, en tous les cas.
Au tout début, écoutez, il y a eu un double phénomène. C'est-à-dire, à une époque, certaines drogues étaient justement utilisées par des élites. Mais en ce qui concerne l'héroïne, dans les années 50, ça s'est effectivement répandu comme une traînée de poudre. Et c'est vrai que ça a touché surtout les ghettos noirs, Harlem, Brooklyn, enfin, le Bronx et tout ça.
Oui, avec au départ donc les marginaux, quelques artistes. En 1969, le cap des 100 000 toxicos est franchi. Puis tous les milieux sociaux, surtout les jeunes, donc des milliers qui meurent de l'abus de stupéfiants ou juste parce qu'ils ont voulu essayer. C'est une jeunesse qui se détruit et puis qui va aussi, phénomène ou dommages collatéraux, sombrer dans la criminalité.
C'est-à-dire que l'héroïne, ça a été une sorte de nouvelle drogue pour cette jeunesse-là. Ils n'ont pas compris que c'était quelque chose d'extrêmement dangereux. Et ils ont voulu absolument se fournir, et par tous les moyens. Et lorsque j'ai interviewé donc, des douaniers, des policiers américains, des anciens policiers de cette époque, ils me disent qu'il y a eu une violence dans les villes terrible parce qu'ils faisaient tout pour avoir leur dose. Ils étaient capables de tout.
Ouais. Ils arrachent les sacs, bien sûr, ils cambriolent, violence physique, bien sûr. Mmh, et puis, au plus proche de chez eux, dans les familles, chez les voisins.
Bah oui, bah c'est-à-dire qu'un toxico en manque, malheureusement, est capable de tout. C'est un aimant, c'est magnétique, c'est trop fort. L'héroïne, et surtout cette héroïne-là, une héroïne qui était très très pure à cette époque, faite par les Français, raffinée par les Français, c'était vraiment un poison. Et les jeunes n'arrivaient pas à résister, c'était pas possible.
Ouais, et comme conséquence, eh bien, ça aura de pousser les habitants des quartiers où ça se passe, de les pousser en dehors. Ils vont fuir vers des banlieues plus lointaines encore. Alors que fait la police à ce moment-là? Donc on est au début des années 60, David Cornbrosa.
Il faut voir des deux côtés de l'Atlantique, si vous voulez. Au niveau des Américains, eux, depuis les années 50, ils se sont rendus compte que progressivement, la consommation d'héroïne augmentait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de savoir d'où ça venait. Et ça venait de France. Ils ont décelé que ça venait de France. Et ils ont envoyé, dès les années 50, et ça c'était quelque chose d'assez nouveau pour moi de le découvrir d'ailleurs en faisant ce documentaire, ils ont envoyé dès les années 50 des policiers américains en France, qui ont été à Marseille, des agents spéciaux qui ont aidé la police française et qui ont essayé de tirer la sonnette d'alarme en disant aux autorités françaises et à leurs homologues français: écoutez, il y a un problème de trafic de drogue. La drogue arrive massivement de France vers les États-Unis. Il faut essayer de réagir. Mmh. Et le problème, c'est qu'en France, la France n'était pas du tout touchée par cette toxicomanie.
Ouais. Alors pratiquement, comment ça se passe, hein? On a des témoignages dans votre film, David Cornbrosa. Le témoignage notamment d'Edouard Rimbaud, alias Doudou. C'est un ancien policier, c'est un braqueur. Il était résistant, il est devenu écrivain et puis surtout, il était trafiquant. Il raconte son expérience. Pour qui travaille-t-il au départ, ce Doudou?
Écoutez, lui, il a un itinéraire de vie assez exceptionnel. Ouais. Comme vous l'avez souligné, il est résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est écrivain, édité chez Gallimard. Et puis, il fait des mauvaises rencontres. Et puis, à une époque, eh bien, se faire beaucoup d'argent, c'était l'héroïne. Et il nous le dit, on ne pouvait pas gagner plus qu'avec l'héroïne. Et il devient trafiquant. Il devient un intermédiaire assez important. Et donc, il est aux États-Unis. Et lui, il réceptionne des Français qui arrivent avec de la cam, et lui, il a le contact de l'acheteur américain, et donc il va pouvoir être l'intermédiaire et se faire de l'argent au passage. Alors vous me dites comment il devient trafiquant. Ben ensuite, ce sont des rencontres, mais il travaille surtout avec Jean-Baptiste Croce.
Ouais.
C'est un grand trafiquant de l'époque qui arrose les États-Unis en héroïne, et donc Croce fait passer plusieurs voitures, presque une par mois, voire plus, bourrée d'héroïne, et cette héroïne part vers les États-Unis.
On pourrait aussi évoquer Edmond Taillé, hein, qui est un chanteur de variété à l'époque, est un passeur aussi, qui n'est pas quelqu'un finalement très courageux, qui se sert beaucoup des autres. Vous pouvez nous expliquer comment il s'y prend? C'est un séducteur au fond avant tout.
Oui, alors il faut innover pour ces passeurs, parce qu'au fur et à mesure, disons, les autorités douanières américaines réagissent. Elles voient arriver des DS, donc des voitures Citroën DS fourrées d'héroïne. Bon, ça passe une fois, et puis ensuite, elles commencent à contrôler tous ces Français qui arrivent, soi-disant en voyage de noces, soi-disant encore dans d'autres manières de passer. Mais en tout cas, alors, les mafieux, les trafiquants recrutent des gens qui sont un peu connus, des petites stars. Alors, il y avait Edmond Taillé, il y avait aussi Jacques Angélevin, qui est un animateur de la télé française. Mmh. Et donc, ils essayent, parce que ces gens-là sont assez réputés, de leur faire passer de la cam. Et comme ces personnes-là sont assez à l'aise, disons, et puis assez connues, des fois, ça passe. Et puis, des fois, ça passe pas.
Ouais.
Et alors, Edmond Taillé, vous me disiez, Edmond Taillé, lui, ce qu'il arrive à faire, c'est que il drague, en fait. Hein,
ouais.
Il drague il séduit des jeunes femmes canadiennes, surtout. Il se fiance avec elle, il les ramène en France comme une sorte de petit voyage de noces.
Ouais.
Et une fois en France, il leur offre une voiture. Il leur offre une voiture bondée d'héroïne. Et puis il leur dit, écoute, maintenant, rentre au Canada, rentre à New York. Je te rejoindrai dans quelques jours, j'ai quelques affaires à régler. Et parfois, donc, c'est la copine quoi, de Taillé, l'épouse de Taillé, la fiancée de Taillé qui finalement passe cette héroïne toute seule au poste de douane. Et donc les douanes ne la soupçonnent pas.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Une fois de plus, c'est la guerre entre policiers français et américains. Et c'est le patron du bureau américain des narcotiques en Europe qui a mis le feu aux poudres.
D'après M. Cusack, Marseille est la plaque tournante de la drogue. Il y a à Marseille, dit-il, une dizaine de laboratoires de transformation, dont 5 fonctionnent à plein temps. Les caïds, les PDG de la drogue, vivent à Marseille en toute tranquillité. Tout le monde a peur et personne n'ose dénoncer.
Voilà, extrait du film French Connection, donc le film de David Kornbrosa. Alors, on reviendra tout à l'heure à John Cusack, dont on vient de parler là dans l'extrait, parce que c'est un acteur important de la lutte contre la drogue. David Kornbrosa, 2000 kilos de drogue produite à Marseille sont revendus 5 fois plus cher à un grossiste aux États-Unis, ce qui nous amène à 10 000 dollars le kilo. L'héroïne est le top de la profession. On comprend donc les risques que les individus peuvent prendre pour la passer. Encore faut-il faire parvenir avec succès. C'est la marchandise. Les trafiquants sont très très ingénieux dans leurs cachettes. Il y a bien sûr partout sur le corps, il y a les vestes fourrées, mais il y a aussi, par exemple, Johnny Hallyday qui, indirectement, très très indirectement, est impliqué dans un trafic. Comment ça se passe?
Non, il n'est pas impliqué. Ouais. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que donc on a parlé d'Edmond Taillé. Edmond Taillé, c'est donc un jeune artiste qui séduit des femmes pour passer de la cam. Mais une première fois, il a l'occasion, comme c'est un jeune chanteur et que Johnny, lui, est déjà très réputé, il a l'occasion de mettre dans les bagages d'une tournée canadienne de Johnny Hallyday 2 enceintes pour orchestre bourrées d'héroïne. Et ça part dans les bagages de Johnny. Johnny n'est pas du tout au courant, mais en tout cas, la cam passe et arrivé au Canada, Taillé récupère ces 2 enceintes et va pouvoir revendre cette cam.
Et puis le moyen le plus sûr, en tout cas l'un des plus ingénieux, c'est ce qu'on appelle le farcissage de voitures, c'est ça ?
Oui, le farcissage, ils se sont rendus compte que les voitures DS Citroën notamment, bah, c'était très, très facile de les farcir. Hein. Et donc il y avait des spécialistes, là dans le film j'ai interviewé un spécialiste du farcissage des voitures qui s'appelle Jean-Pierre Hernandez. Et il arrivait à mettre à peu près 80 kilos dissimulés dans une voiture. Et on pouvait mettre plus. Alors vous imaginez 10 voitures dans l'année, ça fait déjà une tonne. ouais. qui passe aux États-Unis. Et c'est de l'héroïne pure. Il faut bien rappeler que cette héroïne qui part de France, c'est une héroïne pure à 98%. C'est la meilleure héroïne au monde à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'elle se vend aussi bien à l'étranger. C'est pour ça que tout le monde la réclame.
Parce qu'on peut aussi la couper facilement, c'est ça ?
Exactement. Une héroïne pure à 98%, une fois qu'elle arrive aux États-Unis, elle est coupée avec du lactose, avec d'autres produits. Et ça fait que finalement, une tonne, bah, ça devient presque, allez, je dirais, 6 à 8 tonnes.
Ouais. On multiplie évidemment les itinéraires, les planques. Mais est-ce qu'il y a un itinéraire type de Marseille aux États-Unis ?
Il y a eu tous les itinéraires. Mmh. Parfois, ça partait via une nation européenne. Mais sinon, ça passait aussi par l'Espagne, bien sûr. Et d'Espagne, ensuite, les voitures, disons, partaient de Marseille, allaient jusqu'en Espagne. Là, elles prenaient un bateau qui allait jusqu'au Mexique. Et du Mexique vers les États-Unis, ça prenait la voie routière, où il y avait un poste frontière qui était assez célèbre. C'est le poste frontière de Montreal-Laredo, où là, les douaniers, bah, évidemment, interceptaient parfois, mais il y avait tellement de monde qui venait du Mexique qu'en général, les voitures passaient.
En regardant votre film, David Cornebrosa, on a presque le sentiment que c'est facile, ce trafic.
C'est facile, ça, demandez-les aux trafiquants.
Ils le font avec, enfin, en tout cas, ils en parlent avec beaucoup, avec le sourire presque, les anciens trafiquants.
C'est-à-dire que c'est des anciens. Ouais. C'est vrai qu'il y a une sorte de mythologie autour de cette French Connection qui s'est développée parce que c'est les années 60-70, il y a le folklore de ces années-là, c'est Marseille, c'est le trafiquant français qui parle pas un mot d'anglais, qui a un accent marseillais, qui se balade dans New York, qui cherche son vendeur, son acheteur, etc. Donc il y a un folklore autour de ça, très intéressant. Mais les différents trafiquants que j'ai rencontrés, sur le moment, quand ils doivent tirer 30 ans, ils n'ont pas le sourire.
Ouais. Bah, on a M. Hernandez, là, Jean-Pierre, je pense, qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup de remords, lui.
Non, il n'a pas de remords. Il n'a pas de remords du tout. Il nous dit, nous, les Américains, on s'en foutait. Ouais. La jeunesse américaine, on s'en foutait. Je lui dis, et pourtant, je l'interroge. Je lui dis, mais écoutez, ça faisait quand même des centaines de morts. Il arrive un moment où il y a plus de morts par la CAM que par la guerre du Vietnam aux États-Unis pendant ces années-là. Donc c'est quand même énorme. Et lui, il dit, mais c'est pas notre problème. Nous, voilà, c'était sa vie de truand, quoi. C'était le fric et la facilité. Ouais.
Une héroïne donc qui s'exporte dans le monde entier, inonde les États-Unis. Marseille, principal laboratoire de fabrication. On va voir avec vous qu'il y a des raisons historiques et politiques assez étonnantes.
Nous avions des centaines de conserves de paella à inspecter. Mais nous savions que les boîtes contenant de l'héroïne étaient plus légères que les boîtes de paella. Les trafiquants avaient donc dû ajouter des poids de plomb dans les boîtes pour compenser la différence. Il nous a suffi de toutes les passer au rayon X pour repérer les plombs.
Nous en avons ouvert une et bingo. À partir de là, on n'avait plus qu'à repérer tous les plombs au rayon X, qui étaient comme des plombs de pêche, et le tour était joué. On a aussi remarqué que ces boîtes-là portaient un O, rempli de noir. C'était la marque qui leur permettait d'identifier les boîtes à ouvrir.
Voilà, extrait du film French Connection, donc le film de David Cornebrosa. Alors David, pourquoi Marseille est-elle devenue au fond le laboratoire, la plaque tournante du trafic de la drogue ? Ce sont des raisons politiques et historiques. Hein.
Oui, Marseille, c'était la capitale coloniale de l'Empire français à cette époque. Donc tous les bateaux arrivaient à Marseille. Et à Marseille, c'est là qu'il y avait les meilleurs chimistes. Hein. Il y avait donc Joseph Césari qui était le meilleur chimiste. En 1947, à Marseille, il y a de nombreuses grèves suite à des problèmes sociaux. Et ainsi que dans les années 50, les dockers de Marseille se mettent en grève pour stopper l'acheminement d'armes en Indochine, pendant la guerre d'Indochine. Et donc, suite à ces grèves, le gouvernement américain, qui lui a développé le plan Marshall et souhaite que ces marchandises arrivent en Europe, ces grèves ne lui conviennent pas du tout. Ça bloque absolument le plan Marshall et les marchandises sont bloquées sur les quais. D'un autre côté, on a Lucky Luciano, qui est un grand trafiquant de l'époque. Lui, il opère depuis Naples et il intercepte les bateaux du plan Marshall pour finalement revendre ses marchandises au marché noir. Et puis, il développe toutes sortes de trafics. Mmh. Il a besoin que les bateaux soient déchargés à Marseille. Ouais. Et donc, entre Luciano et entre les services secrets américains, il va y avoir une sorte de collusion, en plus d'une famille corse très puissante qui s'appelle les Guérini. et les services secrets américains vont armer les Guérini pour qu'ils cassent les grèves à Marseille.
Ouais. Et il faut vraiment se rendre compte que Luciano est un homme extrêmement puissant. Hein. Il avait été condamné à 30 ans, hein, plusieurs dizaines d'années de prison en 1936. Il veut évidemment sortir. Il va négocier sa libération en faisant force, enfin, en faisant démonstration de sa puissance. Vous pouvez nous rappeler comment
Oui, dans les années 30, Luciano, donc, c'est quand même le roi de la prohibition. Hein, et donc, il est effectivement emprisonné en 36. Ce qu'il fait, c'est que ses hommes, il est extrêmement puissant, ses hommes font couler le bateau, le Normandie, dans le port de New York, ouais. Alors que le Normandie est utilisé comme transporteur de troupes. C'est une sorte de sabotage immense qu'on lui accrédite. Et Luciano dit, écoutez-moi, il faut me libérer, je ne reste pas en prison. Ouais. Et effectivement, dès l'après-guerre, il sort de prison. Et pendant la guerre, pour aussi être libéré et négocié, il fait appel à la mafia sicilienne qui va permettre aux Alliés de débarquer en Sicile commettant de nombreux sabotages contre les Allemands.
Et Luciano et Guérini, donc cet autre chef de clan, vont s'associer, ils vont devenir très très puissants sans être trop embêtés par les autorités. Pendant de nombreuses années, le trafic de cam va prospérer.
Parce qu'ils avaient tous, ils avaient tous le même intérêt, c'est-à-dire les trafics, pour les uns, les trafics reprennent, pour les autres, c'est le plan Marshall qui continue. Et donc tout le monde y trouvait son intérêt.
Mais à la fin des années 60, donc, c'est l'arrivée de Richard Nixon, le président des États-Unis. Il va mener une lutte acharnée, assez solitaire au début, hein, contre cette mafia de la drogue. On va le voir ça avec vous, David Cornbrosa.
Intercepté mardi au sud de Villefranche, le Caprice des Temps était en principe destiné à la pêche aux crevettes.
Il a travaillé presque toute la nuit dessus. Et au petit matin, il m'a dit, écoutez, il y a quelque chose qui n'est pas clair. La ligne de flottaison a un écart de quelques centimètres. Ah bon ? Et ça viendrait de quoi ? Il dit, il y a une charge anormale, probablement vers l'avant du bateau.
Drogue, super succès pour les douaniers de Marseille.
Prise sensationnelle réussie par les douaniers de Marseille.
Les douaniers marseillais ont effectivement de bonnes raisons d'être satisfaits.
Ça représente la plus grosse prise mondiale qui ait jamais été faite en héroïne pure à ce jour.
Voilà, extrait du film French Connection de David Cornbrosa. On est en 1968. Richard Nixon est élu à la fonction suprême aux États-Unis. Il est le 37e président américain. En France, c'est De Gaulle qui est encore au pouvoir pour quelques mois. Il va falloir attendre l'arrivée de Pompidou pour s'atteler à la lutte contre la drogue. Alors, vous l'avez déjà un tout petit peu évoqué tout à l'heure, David Cornbrosa. Comment réagit Pompidou ?
Alors déjà, c'est assez rare quand un président américain s'adresse à un président français en disant « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre fin au trafic de drogue ?» C'est-à-dire c'est quelque chose qui est totalement inédit et totalement très rare. On parle de grande politique internationale, on parle de désarmement, on parle de guerre froide, on parle de plein de choses. Mais trafic de drogue, en tout cas entre deux nations occidentales, c'est assez rare. Et effectivement, Nixon écrit une lettre à Pompidou en lui disant « Écoutez, voilà, il y a quand même 80% de l'héroïne qui vient de France, il faudrait faire quelque chose. » Et Pompidou, au tout début, eh bien, si vous voulez, il va botter un peu en touche, c'est-à-dire il va dire, écoutez, on fait ce qu'il faut, on a nos fonctionnaires qui travaillent, et donc je ne pense pas que vous ayez quelque chose à nous dire à ce propos, on fait ce qu'il faut. Et en fait, ça ne se passe pas comme ça, c'est-à-dire que les autorités françaises ne prennent pas du tout conscience du phénomène qui se développe aux États-Unis, de cette toxicomanie qui est un véritable fléau et qui tue des centaines de jeunes, des milliers de jeunes, et je ne dirais pas qu'elle laisse faire, mais elle ne prend... En France, il ne se passe rien. On va dire que la toxicomanie n'est pas un grand phénomène. Et donc, tous les policiers que j'ai interviewés, tous les douaniers français que j'ai interviewés nous disent que la drogue, ce n'était pas du tout une priorité en France pendant toutes les années 60.
Ouais, c'est pas du tout une priorité. C'est beaucoup de cynisme. En fait, ce n'est pas de la politique intérieure puisqu'on ne consomme pas en France. Ou on consomme peu.
C'était, on ne consomme pas en France. Vous, Américains, c'est votre problème de consommation. Nous, on n'a pas de problème, donc on ne va pas s'occuper de ça. Ce n'est pas du tout notre priorité.
Alors, 250 000 toxicomanes au tout début des années 70 aux États-Unis. Un an plus tard, en 71, 500 000 jeunes. Ils vont donc dégager les États-Unis des moyens colossaux pour équiper les policiers, les spécialistes de la lutte contre la drogue. Quand est-ce que les Français commencent à prendre le problème au sérieux ?
Bah écoutez, au début, les Français font la sourde oreille, mais ils font la sourde oreille depuis les années 50. Hein, ouais. Parce que depuis les années 50, les Américains se plaignent. Ils ont découvert dès 51 des laboratoires à Marseille, hein, avec leurs agents américains délégués et qui ont été à Marseille dès les années 50. Mais alors, comment les Français réagissent ? Eh bien, tout doucement, il se trouve que fin 69, et puis surtout 70-71, là, d'un coup, la France est à son tour touchée. C'est-à-dire qu'on commence à parler de... d'overdose. Ouais. On commence à parler de toxicomanie. Il y a des faits divers d'overdose assez, qui se répandent dans les médias. Et d'un coup, la France commence à être un peu touchée de l'intérieur. Et elle ne va finalement réagir que par ça. Ouais. C'est-à-dire c'est parce que la France devient touchée et que les jeunes Français commencent à toucher à l'héroïne et qu'il y a de plus en plus d'overdose, notamment à Marseille, que les autorités vont commencer à se réveiller. Mais il va falloir tout de même que Nixon fasse encore plus de pression. Et ouais, il la fera.
Et aussi avec John Cusack, qui est le directeur du Narcotic Bureau en Europe, qui va faire une sorte de coup médiatique, qui accuse la France et la presse prend le relais au fond.
Tout à fait. John Cusack, donc, qui est directeur du Bureau des Narcotiques Europe, donc c'est un agent américain en ouais. Europe hein, qui se charge de ça et qui fait en août 71 de grandes déclarations dans la presse marseillaise et nationale en disant voilà, la drogue c'est Marseille, il y a à Marseille des grandes familles, des parrains, les autorités sont complices et elles laissent faire. Et donc, tout ça, ça va un peu secouer le cocotier, comme on dit. Et puis, ça va faire que les gens vont commencer à réagir. Enfin, les autorités politiques françaises vont commencer enfin à réagir.
Alors, en fait, ce que cherchent les Américains, hein, ce sont surtout les labos. Mais on a beaucoup de mal à les trouver parce qu'on s'imagine que ce sont des énormes infrastructures. En fait, s'il y a de l'eau courante, de l'électricité, on peut installer un labo. Donc, ça peut être dans une petite villa anodine, dans la campagne. Arrive l'année, donc on a beaucoup de mal à les trouver, et puis arrive quand même l'année 1972 et un dénommé Cesari, qui va être très très important. Qui est-il, David Cornbrosa?
Alors Cesari, Joseph Cesari, c'est un Corse et c'est le meilleur chimiste de la French Connection. Il a le tournemain, si vous voulez, il arrive à faire une héroïne pure à 98% et tout le monde se l'arrache. Toutes les grandes familles lui passent des commandes énormes pour qu'il raffine cette héroïne. Et effectivement, en 72, eh bien, alors qu'il avait déjà été condamné et arrêté en 64, il est ressorti de prison et il s'est remis à fabriquer de l'héroïne. Et cette fois, les hommes du commissaire Morin, qui est l'homme qui va nettoyer Marseille, entre guillemets, va mettre la main sur son labo et va réussir à prouver qu'il s'est remis au travail et qu'ils vont réussir à l'arrêter. Quoi.
Alors on va aller un peu vite parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Quelques heures plus tard, un autre chimiste va être arrêté et puis on va arrêter voilà, tout un réseau. Ce qui va évidemment détendre les relations diplomatiques, politiques, économiques entre la France, les États-Unis. Cesari se suicidera, hein, lui, puisqu'il risque 40 ans de prison. Taillet se fera prendre, il va tout balancer. Rimbaud est toujours en prison. Enfin, je ne sais pas s'il est toujours en prison, mais en tout cas, il y a toujours un contrat qui pèse sur sa tête, puisqu'il a balancé aussi ses collègues. Mais c'est la question de votre film, David Cornbrosa, c'est que est-ce que tout cela est bien fini? Est-ce que la French Connection, c'est du passé?
Non, c'est pas fini. Effectivement, Marseille n'est plus maintenant la capitale mondiale de l'héroïne. Il y a eu d'autres pays qui ont pris le relais. On connaît tout ce qui est de l'Amérique du Sud, la Colombie, etc. Mais la French peut revivre, peut renaître de ses cendres. Dans les années 70, il y a eu encore de nombreux laboratoires découverts à Marseille, hein, tout au long des années 70. Même de temps en temps, dans les années 80, on trouve des laboratoires. Le juge Michel a été assassiné en 81 parce qu'il enquêtait sur ses affaires. Donc la French Connection n'est pas morte, elle peut renaître de ses cendres. Il y a encore des gens puissants qui peuvent la remettre...
Lui redonner vie.
Qui peut lui redonner vie. Enfin, et si les autorités ne restent pas vigilantes sur ce terrain, ça recommencera.
Ouais. Hôpital Fernand Vidal à Paris. Daniel vient d'être amené d'urgence. Il a 23 ans. Il a pris une overdose, une dose trop forte d'héroïne. Il est dans le coma. Si on n'arrive pas à le ranimer, c'est la mort.
Vous allez vous piquer l'héroïne, là?
Oui.
Vous ne pouvez pas vous en passer?
Non.
Et lorsque vous avez commencé avec l'héroïne, vous saviez ce que ça donnerait?
Ah non, mais sûr, si on avait su, on ne l'aurait pas fait. Si on avait su à quel point on serait tombé.
J'ai une amie qui est morte il y a 2 semaines et il y a 15 jours,
une amie
qui est morte aussi.